Voix nue. Cette semaine, Dany Legras rencontre Elisabeth de Fontenay. Ce soir, le vivant, cette énigme.
Bonjour Elisabeth de Fontenay.
Bonjour Dany.
Elisabeth de Fontenay, nous avons évoqué l'enchantement provoqué par la lecture de Diderot, à propos duquel vous dites « Mon pessimisme s'abolit quand je lis Diderot ». Nous avons parlé du choc provoqué par la découverte de la dialectique de la raison, mais aussi de votre attachement à Jacques Derrida et à son travail de déconstruction qui consiste à refuser l'opposition de l'animal et de l'homme, même si vous soulignez, vous l'avez fait hier, que parfois il va très loin dans sa réflexion. Je vous propose qu'on se penche sur ce que peut l'animal, cet être qui n'est fait que sentir, et là je parle sous votre tutelle, Elisabeth de Fontenay, cet être qui n'a pas de cogito, qui n'a pas de conscience de soi, mais qui est habité par une intériorité et une subjectivité. Elisabeth de Fontenay, les animaux sont là, nous avons avec eux de relations, leur présence s'impose à nous. À quoi peut-on reconnaître que les animaux sont des sujets de conscience? Peut-on parler de psychisme animal?
Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui me frappe quand vous citez ce que j'ai écrit, c'est que bon, j'ai dans l'endroit où j'ai une maison à Douai-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire, il y a un zoo magnifique. Et j'ai été récemment à ce zoo, et c'est prodigieux. Mais je n'ai aucun feeling véritable, ni avec les oiseaux exotiques, ni avec les éléphants un petit peu, ni avec les tigres, ni les lions, ni même les chimpanzés, bien que je sois bouleversée par le texte de Marguerite Duras. Alors, quand je parle des animaux, je fais une extension, je parle de tous les animaux, mais je pense surtout aux animaux domestiques, que je connais bien, que je connais mieux. Surtout les chiens, les chevaux, les vaches. Et vous me demandez, alors, et non pas de cogito, vous prononcez ça de façon impeccable, cogito. Ils n'ont pas de cogito, ils ne disent pas je pense, je suis. Ils ne disent pas je suis, j'existe. Ils ne disent rien du tout du reste. Est-ce qu'on peut parler d'une subjectivité animale? Eh bien, on peut parler, en tout cas, d'une singularité et d'une personnalité animale, oui. Et je vous disais hier, l'intelligence ne m'intéresse pas chez les animaux, ni vraiment chez les humains du reste, sauf si c'est les élèves, évidemment, c'est quand il s'agit de les noter. Mais l'intelligence, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est la pensée. La pensée, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vague, qui a une grande extension. Et je crois que les animaux sont capables de penser rêveuses, parce qu'ils ont une certaine identité, de leur, comme dit Spinoza, de leur tendance à persévérer dans l'être qui leur est propre. Et cette pensivité animale me semble plus importante que des performances d'intelligence, voire d'émissions de signes qui ressemblent à du langage. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler de subjectivité animale? Je n'ai pas une passion pour la subjectivité. Vous avez deviné à travers ce que je peux écrire. De toute façon, c'est pas grave s'ils n'ont pas de subjectivité. Ils ne se sentent pas des sujets. Un sujet, c'est un être libre. Ils ne sont pas libres. L'animal, c'est d'abord quelqu'un. C'est d'abord quelqu'un d'aliéné.
Mais c'est d'abord quelqu'un.
Mais oui, d'abord quelqu'un. C'est quelqu'un en fonction de sa race, de son espèce et de sa race, en fonction de son individualité aussi.
Elisabeth de Fontenay, vous parlez d'énigme animale. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par énigme?
C'est pour ne pas dire le mot de mystère. Donc je me méfie comme de la peste.
Pourquoi vous préférez employer les mots
parce
énigme?
Parce que énigme, c'est un mot laïque, un mot matérialiste. Alors que mystère, ça pue le spiritualisme. Hein? Les religieuses. Et énigme est un mot, c'est une question sans réponse. C'est, l'animal semble poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre et auxquelles ils ne peuvent pas non plus répondre. C'est ça, l'énigmaticité de l'animal, c'est ça.
Pour moi, ça me paraît presque comme un poème. Quand vous dites l'animal est un énigme, c'est déjà énigmatique comme,
oui.
comme phrase et très poétique, puisque justement...
Oui, mais si vous voulez, ça n'est pas un fait, c'est une présence. Même, j'ai reçu un livre, là, qui a l'air tout à fait passionnant, d'Eric Orsenna, sur les cochons. Le cochon, c'est très important. C'est un être très proche de nous. Très proche de nous, les humains. Tous les vétérinaires le disent. Et Eric Orsenna a fait un livre qui a l'air tout à fait extraordinaire parce qu'à la fois, il essaie de comprendre, de se représenter l'énigme du cochon et en même temps, il parle beaucoup des abattoirs et de la viande. Donc, il tient tous les fils à la fois. Les cochons, c'est en quelque sorte la matière première. Ça sert à nourrir les gens. Enfin, certaines gens. Moi, je trouve ça très bon, le porc. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui n'en mangent pas. Et le fait qu'on les élève de façon extrêmement cruelle, qu'on les abatte de façon extrêmement cruelle et qu'on les traite ensuite de façon comme un matériau, empêche de voir, de se représenter que le cochon est un être proche de nous. Et en tant qu'il est proche de nous, c'est une véritable énigme. C'est ça que j'entends par énigme. Une question à laquelle on ne peut pas répondre. Mais c'est une présence qu'on peut éprouver.
Pourquoi notre rapport aux animaux questionne notre humanité tout entière? C'est une question philosophique.
Parce que le propre de l'homme, entre guillemets, moi, j'ai toujours écrit contre le propre de l'homme. Le propre de l'homme consiste à se distinguer des animaux. Non pas que je nie une distinction, je le redis, j'ai écrit un livre qui a pour titre « Sans offenser le genre humain ». Et dans ce livre, j'ai relu qu'on pouvait dire que ce qu'un animal ne pourra jamais faire, c'est montrer quelque chose pour demander à autrui de le regarder. Il peut montrer quelque chose, comme un chien qui se dirige vers on sait quoi, des friandises ou sa pâtée, indiquer quelque chose, pas qu'il veut le manger, mais indiquer quelque chose, montrer quelque chose, pour le montrer à quelqu'un d'autre. Alors c'est l'autre qui n'existe peut-être pas pour lui. Pour l'animal, c'est peut-être l'autre qui n'existe pas. Évidemment, quand on a un chien, on peut pas dire ça parce que est-ce qu'on est l'autre? Est-ce qu'un maître est l'autre de son chien? Votre cheval s'appelait Compa, c'est ça?
Compa, oui. Oh,
c'est superbe comme nom, superbe.
Oui.
Ça convient à un cheval. C'est d'une exactitude.
Oui.
Splendide.
Et il était tout à fait
très géométrique.
Et très géométrique. Oui, c'est pour ça que
son,
je suis d'accord.
Son élégance était toute mathématique.
Oui, oui.
Voilà.
Élisabeth Desfontenay, est-ce que nous devenons de plus en plus conscients d'une communauté des destins entre l'homme et l'animal?
Évidemment, je suis tout à fait pour cette manière de penser les choses et pour que la compassion pâtir avec, étymologiquement, c'est pas de la pitié, c'est pâtir avec les animaux. La compassion pour les animaux vient de certaines communautés. Ce n'est pas identité de destin, mais une communauté de destin. Mais je rappelle la Shoah qui est à l'abattoir. Donc il y a cette communauté de destin-là. Et vous voyez que je dis ça sans offenser le genre humain, sans offenser le peuple juif, bien sûr. Mais cette communauté de destin, c'est quelque chose qui est très présent chez Adorno et Horkheimer, la communauté de destin.
Et vous avez l'impression que la société va de plus en plus dans cette direction, de cette sensibilité, ou
oui,
au contraire?
Oui, bah oui, il y a énormément de progrès. Il y a un progrès je veux dire, une chose énorme. Depuis que j'ai écrit Le silence des bêtes, il y a un énorme progrès. C'est pas qu'on me cite beaucoup, mais ça a libéré les gens, ça a libéré le désir d'écrire des gens.
Oui, ça a ouvert beaucoup
de
portes.
Il y a un progrès énorme, très grand progrès dans les mœurs. Et je ne sais pas ce que ça va devenir, mais d'abord, les gens mangent de moins en moins de viande. C'est bon pour eux, c'est bon pour les animaux. Et on respecte de plus en plus les animaux, je crois. Mais ce qui est très compliqué, c'est le rapport de tout ça avec l'écologie. Je ne suis pas très au clair avec moi-même.
Oui, parce qu'hier, vous avez évoqué ça. On peut creuser aujourd'hui ces sujets. Dites-nous.
D'abord, je vous ai dit que les animaux sauvages, je ne les connaissais pas. Et ils ne m'intéressent pas vraiment. Ils m'intéressent beaucoup moins que les cochons et les vaches. D'autre part, la nature, pour moi, c'est de l'histoire. L'opposition de la nature et de l'histoire n'a aucun sens. La nature a été faite avant qu'il y ait l'histoire, je ne sais pas. Mais c'était déjà un devenir. Et à partir du moment où les hommes s'en sont mêlés, ils ont fabriqué, ils ont forgé la nature. Et donc, l'écologie, dans la mesure où elle intervient beaucoup contre les interventions humaines sur la nature, manque une chose essentielle, c'est que la nature, c'est l'histoire. Je fais très attention parce que c'est un tel débat en ce moment, mais la droite, des gens de droite que je ne supporte pas, disent que l'écologie fait oublier la politique. C'est pas faux. On le dit à gauche aussi. Et ce qui est très, très extraordinaire chez Michelet, qui est un auteur que j'aime énormément, bien que j'en dise beaucoup de mal dans mon dernier livre, oui. Chez Michelet, je vous redis une chose qu'il a écrite. L'histoire naturelle est une partie de la politique. Voilà. Et il appelle à l'élargissement de la démocratie jusqu'aux animaux. Et dans la façon écologiste de penser les choses, je trouve que ce souci du politique, qui est un souci qui est le propre de l'homme, il n'y a que les hommes qui se préoccupent de politique. Passons. Ce souci du politique disparaît un peu dans l'action écologique, dans la revendication écologique. Écologiste. Mais je ne suis pas au clair là-dessus, je suis très tourmentée par ça.
Et puisque vous avez cité Michelet, oui. C'est un auteur que vous aimez beaucoup, et il y a une invocation lyrique de Michelet qui vous émeut particulièrement. Je vais la citer, c'est « L'animal, sombre mystère, monde immense de rêves et de douleurs muettes ». Peut-on, Elisabeth de Fontenay, peut-on faire un parallèle entre les mutismes animaux au mutisme de celles et ceux qui sont privés de parole ?
Non, bien sûr que oui, en un premier temps, puisque je vous ai dit que mon éveil à la question animale venait de mon frère. Donc je ne veux pas être hypocrite, mais philosophiquement, politiquement, non. Non, c'est ce que un être humain, même arriéré, même handicapé, même fou, émet des signes. Et des signes, c'est pas des cris, c'est pas des une queue qui remue, c'est quelque chose qui appartient au langage. L'homme le plus sinistré, le plus primitif, le moins civilisé, le plus fou, le plus arriéré, est encore un émetteur de signes. Et un signe, c'est quelque chose qui demande d'être interprété. Et pas juste compris pour faire un geste, pour lui donner à manger ou pour le caresser. Ça exige une herméneutique. Voilà.
Dans votre livre « Sans offenser le genre humain », vous nous rappelez que l'abattage industriel a déjà fait de la tuerie administrée un acte purement technique. Cette civilisation technicienne et mercantile a complètement oublié l'être vivant qu'est l'animal. Faut-il accorder, je vous pose la question tout simplement, faut-il accorder des droits aux animaux, Elisabeth de Fontenay ?
Bien sûr.
Des droits efficaces, universels ?
Bien sûr, bien sûr. Qui ne sont pas les droits de l'homme, bien sûr. Mais en admettant que les droits de l'homme soient pris en compte mondialement, ce qui n'est pas le cas. Mais bien sûr, il faut accorder des droits, de plus en plus de droits aux animaux. Alors, ce ne sont pas des sujets de droit, mais bien sûr, il faut leur accorder protection, et une protection qui n'est pas un droit est nulle et non avenue. Le droit est une vérification de l'efficacité de la protection.
Même si vous dites toujours que vous n'avez pas été une militante, est-ce que vous militez pour ça ? Pour que les droits soient accordés,
oui,
en tout cas,
oui,
un droit
oui.
À plus.
En gros, oui. Enfin, je ne suis pas très militante de nature. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Je signe des textes tout à fait dans ce sens. Tout à fait.
Et nous sommes encore trop éloignés de cette...
On fait beaucoup de progrès en ce moment. Beaucoup de progrès. Écoutez, je suis totalement bouleversée par ces assassinats de chevaux. J'ai lu chez le coiffeur ce matin un article de Paris Match là-dessus. Et c'est absolument effroyable. J'ai lu que près de Narbonne, on a vidé entièrement un cheval de son sang. Comment ils ont fait ? Ils ont certainement mis une bâche. L'animal est vidé de son sang. Qu'est-ce qu'ils font de ce sang ? Donc, c'est des pratiques...
Barbare ?
Non.
C'est pas les bons mots.
Retirez aussitôt ce mot.
J'ai retiré ce mot.
C'est des pratiques magiques. Bon, c'est pas non plus très bien. Bon, c'est des pratiques de sorcellerie. Voilà, la sorcellerie. On peut avoir horreur à la sorcellerie sans risquer, oui. Sans risquer de ne pas être politiquement correct. Qu'est-ce qu'il y a de tellement merveilleux dans les civilisations non européennes ? C'est les sacrifices. Le rapport sacrificiel aux animaux n'a rien du rapport européen barbare de l'abattoir. Donc, les pratiques magiques des civilisations non européennes, certaines civilisations non européennes, non occidentales, manifestent un véritable respect de l'animal. On le met à mort, certes, peut-être qu'on le mutile, mais ça a un sens, c'est pris dans un réseau de sens.
Est-il utopique de penser à une non-subordination du monde animal au monde humain ? Est-ce qu'il faut déjà souhaiter cela ?
Je ne crois pas du tout. Je pense que c'est pour ça aussi que je ne suis pas très écologiste. Je pense subordination, ça ne me plaît pas beaucoup. Domination, ça me plaît encore moins. Mais je pense que le reliement du monde animal au monde humain par du droit et par des pratiques de respect, de considération, c'est très important. Je ne suis pas sûr que les animaux, à l'heure actuelle, puissent survivre sans nous. Du reste, les animaux sauvages disparaissent à toute allure. Alors, vous me direz que c'est du fait des hommes, mais la responsabilité humaine, c'est précisément de faire des lois pour interdire certaines pratiques. Et cette responsabilité, seuls des êtres humains peuvent les prendre, parce que la responsabilité, c'est une caractéristique humaine.
Je lis quelque chose aujourd'hui, ça m'a fait un peu sourire, parce qu'hier, vous avez mentionné des pratiques des zoophilies, vous avez évoqué l'Amérique, etc. Et je lis aujourd'hui un texte qui a été écrit par une anthropologue américaine qui s'appelait Deborah Beard Rose. Et elle a écrit un essai qui s'appelle « Les rêves du chien sauvage ». Et elle dit qu'en tant que créature imbriquée dans la multiplicité des liens propres à la vie sur Terre, nous ne connaissons pas de véritable solitude. Elle dit « Nous sommes tous inextricablement liés ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette anthropologue ?
C'est magnifique. Ça devrait être vrai. Je voudrais tellement que ce soit comme ça. Si on pouvait être conscient que nous sommes inextricablement liés aux animaux, tout serait sauvé. Sauvé, je retire. Michelet peut parler de mystère parce qu'il était très anti-religieux, très anti-chrétien. Donc il peut se permettre de parler de mystère. Je me méfie, moi, je me méfie. J'ai une éducation religieuse qui me court après.
Élisabeth de Fontenay, vous dites que l'apparition d'Homo sapiens avec ses 900 cm cubes de cerveau en trop est une éruption violente et qu'à partir de cette formidable rupture apparaissent l'échange des paroles, la transmission des connaissances acquises et surtout la capacité d'énoncer des règles. Les succès évolutifs de l'espèce humaine tient donc à ces 900 cm cubes de matière grise en trop. C'est ça qui nous différencie des animaux.
Si vous voulez, je veux être matérialiste, je ne veux pas être positiviste.
Quelle est la différence pour notre auditeur?
Le positivisme, c'est croire que la science dit tout, dit le vrai, dit tout. Moi, je pense que il ne s'agit pas de mettre en doute les acquis scientifiques, en particulier celui dont vous parlez là. Il ne s'agit pas de mettre ça en doute, mais il s'agit de sauver quelque chose de la dignité humaine. Et je crois que c'est pas de la blague, c'est pas du spiritualisme de parler de la dignité humaine. Ben, c'est ce à quoi je crois profondément. Voilà. Tout en demandant la dignité pour les animaux aussi, mais c'est pas la même tout à fait. Il reste que, alors, faire la différence entre le matérialisme et le positivisme. Le positivisme croit au progrès, croit au, c'est au juste compte, le positivisme. C'est mon ennemi, le positivisme. Je sais pas très bien le définir. J'essaie d'être matérialiste. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le dernier livre sur le progrès et la grâce. C'est croire au progrès. Être positiviste, c'est croire au progrès. Voilà. Donc il y a un énorme progrès, une rupture, un progrès. C'est pas si simple. C'est réel, c'est vrai. Mais je ne dirais pas que le propre de l'homme, c'est ça. Tu récupères le propre de l'homme, du coup.
Élisabeth de Fontenay, vous avez, aux côtés d'Alain Bougrain-Dubourg, mené une émission sur France Inter où il était question des animaux. Vous avez reçu beaucoup de scientifiques, philosophes, anthropologues. Comment ça s'est passé, cette expérience?
D'abord, j'aimais beaucoup travailler avec Alain Bougrain-Dubourg, avec qui je m'entendais très bien. Et c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de gens très intéressants. Et dans des dialogues très positifs, très constructifs. Et ça a été une très grande joie pour moi de pouvoir faire ça. C'était comme ma façon de méditer.
Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez reçu des invités qui avaient des points de vue complètement contraires aux vôtres?
Non. On les aurait pas invités. Non, il n'y avait pas du tout de discussion. Oui. Les gens étaient tous d'accord sur le fond avec nous.
Élisabeth de Fontenay, vous partez de temps en temps dans la campagne. J'ai l'impression que vous avez une maison de campagne. Est-ce que vous pourriez me décrire cet endroit?
C'est une maison dont j'ai hérité d'amis de mes parents. À ce qu'on m'a dit, c'est un ancien presbytère. On m'a dit que c'était un bien d'église. Dans ma famille, Fontenay, acheter un bien d'église ou hériter d'un bien d'église, c'est un péché épouvantable parce que les biens d'église ont été confisqués par la Révolution française. En fait, c'est une très belle maison du 17e et je doute que ce soit un presbytère, ça se transforme en presbytère, peut-être sous Louis-Philippe ou sous Charles X. C'est des rois minables. Je doute que c'était un presbytère au 17e siècle. C'est pas immense, mais c'est très beau. Les pavés sont pavés d'époque. Il y a des trous, il y a des irrégularités de pavés. J'ai beau mettre des tapis, je manque de me casser la figure tout le temps. Alors, comment voulez-vous que je décrive cette maison? Voilà, c'est une maison du 17e siècle dans le Maine-et-Loire, en Anjou, donc dans le pays de la Vendée, de la guerre de Vendée.
C'est là que vous avez écrit votre dernier essai, La grâce et les progrès?
Oui, en partie. C'est là que j'ai mis au point, cet été.
Vous avez des animaux là-bas?
Non, hélas. Je ne me sens pas le droit d'avoir un animal à l'âge que j'ai. Je ne me sens pas le droit. Mais c'est terrible. Quand je reviens à Paris, je suis folle de joie parce que je croise des chiens tout le temps. Là-bas, on entend des chiens qui nous emmerdent littéralement, qui gâchent les soirées d'été en aboyant au moindre passant. Mmh. Il ne passe pas beaucoup de monde dans un petit village, mais on ne voit pas de chiens. Et dès que je rentre dans ce quartier, je vois des chiens absolument sublimes. Sublimes. Les gens ont de très beaux chiens. Les bourgeois du 16e ont de très beaux chiens. Et c'est une vraie partie de plaisir d'être à Paris à cause de ça. Alors j'ai l'air d'une folle parce que je leur parle. Passons.
Merci beaucoup, Elisabeth de Fontenay. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Dany Le Gras avec Elisabeth de Fontenay. À voix nue, réalisation Marie-Laure Ciboulet, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.